Radio Okapi.
Des violents affrontements hier soir entre les membres du groupe Mobondo et les éléments de la police nationale congolaise ont fait plus de 10 morts au village Salapamba, situé dans le secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata, province de Kwilu. 6 de ces bandits ont aussi été appréhendés, d'autres ont fui vers le village Falio dans le territoire de Kwamout. Le député provincial élu du territoire de Beni au Nord Kivu, Émile Saïdi, dit saluer les efforts que fournissent les FRDC et la police pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État en RDC. Il s'est exprimé ainsi ce 17 mai, journée dédiée aux forces armées de la RDC et à la police nationale congolaise. Bruno Le Marquis est l'invité de ce journal. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC est à Kananga, où il conduit une mission interagence sur l'impact du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies, le PBF. Bonjour à tous. Plus de 10 morts et un blessé grave, c'est le bilan des affrontements violents dans la soirée d'hier mardi entre les éléments du groupe Mobondo et les policiers au village Salapamba, situé dans le secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata, province de Kwilu. Le porte-parole est chargé de la communication de la PNC Kwilu, qui livre l'information à la presse, précise que ces morts sont comptés parmi les assaillants qui ont fait irruption dans ce village. Selon le colonel Camille Atungale, la police a aussi mis la main sur au moins 6 d'entre ces bandits et les autres se sont repliés au village Falio, territoire de Kwamout, dans la province de Maïndombe. Le colonel Camille Atungale, porte-parole de la police du Kwilu, est au micro de Irène Boma.
Effectivement, c'était au niveau du village Salapamba, où il y a eu irruption, n'est-ce pas, des assaillants, comme il m'a appelé Mobondo, avec les armes blanches, des armes calibre 12 et autres, de Mobondo, qui comptent également sur leur fétiche. Et le mardi 16 mai de cette année, bien sûr, ils ont fait irruption au village Salapamba, c'est un village du secteur Wamba, dans le territoire de Bagata. Arrivés sur place, ils ont créé la panique, et il y a eu un affrontement sanglant, avec nos policiers déployés là-bas. De cet affrontement-là, le bilan fait état d'une dizaine d'assaillants tués et un policier grièvement blessé. Et les policiers ont quand même réussi à capturer 6 de ces assaillants-là, qui seront certainement transférés ici à Bandundu pour répondre de leurs actes. Ces assaillants se sont retranchés, ils ont fui, c'est-à-dire leurs rescapés, ont fui vers le village Falio. C'est un village du territoire de Kwamout, dans la province voisine du Maïndombe. Et vous savez que cette partie-là, c'est un peu une intersection entre la ville-province de Kinshasa, une partie de la province du Maïndombe, du Kwango et du Kwilu.
Et pour le général Canold Kamana, commissaire provincial de la police du Kwilu, pour mettre fin à ce phénomène Mobondo, il faudra mener une opération d'encerclement de ces assaillants qui trouvent refuge dans l'intersection de ces 4 provinces, à savoir Maïndombe, Kwilu, Kwango et Kinshasa. Et puis, 3 militaires FRDC ont été tués dans la nuit de mardi à ce mercredi par des miliciens de la CODECO lors de l'attaque de la position des FRDC à Pitso, un village du territoire de Djougouan-Itouri. Selon des sources de sécurité, un autre soldat a été blessé et 2 armes emportées par ces rebelles. Les FRDC ont pu repousser ces assaillants après échange de tirs entre les 2 parties. Restons en Ituri, où le trafic a repris sur le tronçon Iga-Barrière-Mongualou après plus de 2 mois de suspension à cause de l'activisme de groupes armés. On se rappellera que 17 passagers avaient été tués récemment lors d'une attaque vers Bambou dans le territoire de Djougou. Selon le bourgmestre de la commune de Mongualou, les FRDC ont renforcé leur présence sur cet axe routier pour sécuriser les usagers et leurs biens. D'autres sources indiquent que la reprise de la circulation sur cette route est également le résultat des initiatives de la MONUSCO, qui a sensibilisé les communautés locales sur la cohabitation pacifique. Isaac Raymond.
Les premiers camions transportant passagers et marchandises est arrivé lundi à Mongualou à provenance de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cela a encouragé d'autres transporteurs et commerçants à reprendre la circulation sur cette route où le trafic est fluide depuis 3 jours, affirmé le bourgmestre de la commune de Mongualou. Jean-Pierre Bikili-Sende indique que cette reprise a permis de désenclaver des dizaines de localités minières le long de cet axe où les produits de première nécessité étaient rares. Il attribue la relance du trafic aux efforts du gouvernement qui a déployé des militaires le long de cet axe routier. routier et à la sensibilisation des différentes communautés locales à la cohabitation pacifique initiée par la MONUSCO. Les habitants des localités minières se disent également satisfaits de la relance des travaux de réhabilitation de cette route qui était impraticable pendant 2 ans sur l'axe Kilo-Mungwalu, ce qui exposait les usagers aux attaques des groupes armés qui ont tué 17 passagers le 25 mars dernier vers Bambou dans le territoire des Djougou. Mais certains restent prudents et estiment qu'il est encore trop tôt pour s'engager sur cette route. En effet, des miliciens circulent en armes sont toujours visibles dans la région. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et pour lutter contre l'insécurité dans l'est du pays, dans la ville de Beni notamment, la société civile de cette partie du pays a décrété des journées ville morte. Ce mercredi, la ville de Beni est à sa 3e journée ville morte, mais les activités semblent reprendre petit à petit. Les motards sont visibles dans différents parkings au centre-ville et dans certains quartiers. Après la ronde de ce mercredi, voici le reportage de Marc Marofimbo.
La vie semble reprendre petitement dans la ville de Beni, ce qui n'a pas été le cas les 2 premiers jours. Les taxis moto opèrent normalement dans le centre-ville et dans d'autres quartiers, sauf dans les quartiers chauds de la ville situés dans la partie ouest. Dans la partie nord-ouest de la ville, les cellules du quartier Kalinda, telles que Mankampagne, Tony et même Verkuka, les activités semblent reprendre, bien que des barricades sont encore visibles sur les rues, dégagées à moitié pour permettre la circulation des motos, mais pas encore pour les véhicules. Pareil dans les cellules du quartier Ngongolio, où même certaines barricades commencent à être dégagées de la route, hormis les kiosques des revendeurs de carburant communément appelé des Kadhafi jetés sur la route. Par ailleurs, les alimentations, pharmacies, boucheries sont opérationnelles et certaines boutiques dans les quartiers commerciaux Matongé et même les quartiers de la partie ouest de la ville ouvrent à moitié leurs portes afin de servir la population à produits de première nécessité. Pour cette journée du 17 mai, par exemple, où les pays commémorent la journée de la libération, un engouement s'observe dans les espaces de vivre au petit et grand marché Kilokwa. Les organisateurs de cette manifestation qui avaient pour but d'interpeller les autorités à prendre leurs responsabilités face à la recrudescence de la sécurité dans la ville, attendent les derniers jours pour se prononcer après évaluation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Ce mercredi 17 mai, c'est la journée dédiée aux forces armées et à la police de la République démocratique du Congo. Une journée chômée et payée. Au Nord Kivu, le député provincial élu du territoire de Beni, Émile Saïdi Balikwisha, salue les efforts que fournissent les FRDC et la police pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Pour lui, c'est aussi une occasion de saluer la volonté du gouvernement dans l'encadrement des militaires, mais également de l'interpeller à faire mieux pour que les forces armées de la RDC pacifient l'ensemble du territoire national, particulièrement sa partie est déchirée par l'insécurité. Le député Saïdi Balikwisha est au téléphone de Marc Marofimbo.
La journée du 17 mai, ici à la République démocratique du Congo, est reconnue comme une journée dédiée aux soldats congolais. Pour cette journée, nous personnellement, nous rendons hommage à tous les militaires FARDC, à tous les éléments de la police nationale congolaise qui ne ménagent aucun effort dans les conditions les plus difficiles et déplorables pour imposer la paix ici en province du Nord Kivu. En français, on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous croyons que le résultat de votre travail à Bunagana, à Kiwanja, à Kichanga, en Beni territoire, précisément dans la vallée de Mwarika, à Irumu, à Mambasa, à Chani Chani, à Beu Manyama, à Samboko, et j'en passe, est le fruit de la façon dont vous êtes encadré par le gouvernement, et on ne peut pas en dire autre chose. Mais, de toutes les façons, nous sommes fiers de vous et nous vous souhaitons un beau travail.
De son côté, le parti politique Ensemble pour la République rend un hommage mérité aux combattants des forces armées de la République démocratique du Congo qui, au nom de la mère patrie, ont sacrifié leur vie. Par la voix de Stéphanie Kitoumé Mouamini, haut cadre et communicatrice, ce parti cher à Moïse Katumbi lance également un appel aux habitants de Kinshasa de répondre à son appel pour la marche pacifique prévue le 20 mai prochain. On écoute Stéphanie Kitoumé au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous tenons avant tout de rendre un vibrant hommage à nos forces armées à l'occasion de cette journée du 17 mai qui leur est dédiée avec une marque très spéciale à la mémoire de ceux d'entre eux qui ont versé leur sang sur les champs de bataille. Preuve tangible d'accomplissement de leur engagement patriotique de défendre la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Entre autres, M. Laurent Désiré Kabila Mamadou Ndala et lançons un appel patriotique à tous les Kinois de venir participer à la marche du bloc de l'opposition prévue pour ce 20 mai 2023 pour dire non à la guerre nous imposée par les ennemis internes qu'externes ainsi qu'à l'insécurité sur toute l'étendue de notre territoire national, pour dire non à la vie chère et à la misère, pour dire non au processus électoral chaotique qui prépare déjà une fraude massive aux élections de 2023.
Colère des agents auxiliaires de la société Enerka, Énergie du Kasaï, qui commercialise l'énergie électrique à Mbujimayi. Ces agents auxiliaires réclament le paiement des arriérés des salaires de près de 35 mois. Ils suggèrent le départ de leur comité de gestion, qu'ils accusent aussi de mégestion. Le directeur général de Enerka, lui, parle des moyens limités qui ne permettent pas à la société de faire face aux multiples charges, dont le paiement des salaires de ses agents à cause de la vétusté des machines au niveau de la centrale hydroélectrique. Esther Ndalafina.
Les agents auxiliaires de l'entreprise Énergie du Kasaï ont jeté depuis ce mardi quelques tracts dans les installations de la société. Ils réclament le paiement des arriérés de près de 35 mois, comme l'indique l'un d'eux.
Nous avons un problème de la mégestion. Nous déplorons plus de 35 mois d'impayement. Nous déplorons aussi le manque de volonté de toutes les autorités qui nous dirigent.
Contactés, les directeurs généraux de Enerka parlent de faibles moyens qui ne leur permettent pas de faire face aux charges de la société, dont le salaire du personnel.
Les recettes que nous recevons, 10 dollars, des factures, 20 dollars, 50 dollars, avec toutes les charges que nous avons, la maintenance de ces vieilles machines-là, du personnel, les fiscs et tout ça, on n'arrive pas à satisfaire toutes ces charges-là. Même à 50%, si bien que le salaire tombe aussi à compte-gouttes.
Selon Victor Kabongo-Kavitch, les subventions promises par le Premier ministre Samalou Kondé peuvent aider à relever les défis de l'entreprise.
Nous sommes en train de faire les démarches pour avoir cette subvention-là et redresser un peu le niveau de production, ce qui va ipso facto augmenter nos recettes.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux à l'exercice du droit de grève en RDC et l'a envoyé en commission PAJ pour un examen approfondi la semaine prochaine. Au cours de la plénière d'hier mardi, l'initiateur de la proposition de loi, le député Guy Mafuta, a fait savoir qu'il a fallu attendre 4 ans pour voir cette initiative qui touche au social de la population être alignée au soir de la 3e législature. Le droit de grève est un droit fondamental qui permet aux salariés d'exprimer leurs desiderata professionnels sans crainte de quelconque représailles. Mais comme tout droit, il est susceptible d'abus et mérite d'être régulé, motive le député Guy Mafuta. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Le droit de grève est un droit garanti par la Constitution et la même Constitution voudrait que le législateur que nous sommes puissions prendre une loi qui en organise les modalités d'exercice. C'est pourquoi nous, en tant que députés vivant avec la population, après avoir constaté plusieurs abus dans les relations professionnelles entre le travailleur et l'employeur, je suis content parce que pour une fois, nous penchons vers le social de la population. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut aussi, en contrepartie, veiller à la protection de l'outil de travail. Depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais eu de loi qui régule la grève. L'article 303 du Code du travail dit clairement, pour aller en grève, il faudrait que ça soit fondé sur l'amélioration de conditions de travail, pas autre chose. Quand vous voulez aller en grève parce que les léopards n'ont pas gagné un match, ça devient une grève qui n'a pas de sens.
Dans la province du Maniema, la campagne de sensibilisation environnementale sur la protection de la biodiversité, campagne menée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Kindu, commence à produire des fruits positifs. Après quelques jours de sensibilisation, 2 chimpanzés ont été remis volontairement par la communauté à l'ICCN. Le chef de site salue cette volonté de la population. Radar Nicholi invite ceux qui résistent à ne pas attendre la rigueur de la loi. Il est au micro de Florence Kiza.
Les gens ont commencé à remettre, puisque depuis que je suis là, je lançais une campagne de sensibilisation pour avertir déjà les gens que détenir les chimpanzés, c'est une interdiction formelle par la loi de notre pays. Alors, je n'ai pas voulu être trop brutal au départ, puisque j'ai constaté que la plupart des gens le font par l'ignorance de la loi. Mais vous connaissez que aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour le moment, j'ai pensé donner une période de grâce pour que les gens remettent les chimpanzés après la sensibilisation. C'est ainsi que les gens commencent à donner. Et depuis que nous avons commencé la sensibilisation, il y a deux qui sont déjà remis. Un qui est venu du côté Sankourou et un autre que nous avons reçu ce matin qui venait du village tout proche de Kindu ici. Nous connaissons déjà les maisons où il y a des espèces totalement protégées qui sont gardées. Pour le moment, je pense que nous avons encore une marge d'un mois. Celui qui remettra, nous allons le remercier et le laisser partir. Mais après un mois, ce sera maintenant nous-mêmes qui irons chercher avec tout ce qui va s'en suivre.
Actualité internationale.
25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan, rapporte ce mercredi l'ONU, après plus d'un mois d'une guerre pour le pouvoir entre militaires et paramilitaires. Avec près d'un millier de morts, environ 750 000 déplacés et 220 000 réfugiés, et alors que le combat font de nouveau trembler plusieurs quartiers de Khartoum, l'ONU a revu à la hausse ses appels de fonds. Il lui faut désormais 2,6 milliards de dollars pour assurer son aide humanitaire sur le sol soudanais, car désormais, plus d'un habitant sur deux en dépend, soit environ 57% de plus qu'au début de cette année. À cela s'ajoute près d'un demi-milliard de dollars pour aider les réfugiés dans les pays voisins, eux-mêmes en proie à des graves crises économiques, sécuritaires ou humanitaires. Ces réfugiés seront plus d'un million cette année, assure l'ONU.
L'invité
de ce journal, c'est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC, depuis Chikapa au Kasaï où il est à la tête d'une mission interagence. Bruno Lemarquis parle de l'impact du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies, le PBF. Il s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique la présence de cette importante mission interagence à Chikapa dans la province du Kasaï?
Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une mission avec ce qu'on appelle le groupe d'amis des bailleurs de fonds du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. C'est un fonds qui est actif depuis un certain nombre d'années en RDC, il est financé par des bailleurs de fonds, et donc des représentants de ces bailleurs de fonds visitent quelques pays chaque année, et cette année ils ont choisi de venir en RDC. Donc, dans notre mission, nous avons des représentants de la Belgique, de la Suisse, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Le Canada et l'Arabie saoudite devaient également venir, mais les représentants n'ont pas pu se joindre. Et puis, nous sommes venus également avec des membres de ce qu'on appelle l'équipe pays des Nations Unies, donc des chefs d'agence des Nations Unies.
Pourquoi Chikapa et non, par exemple, le Kananga, qui avait été secoué, vous le savez, par la milice Kamuinansapu?
Bon, on avait le choix entre Kalemi, Kananga, Chikapa. Les collègues ont discuté avec les autorités, avec différents partenaires. On a fait le choix de Chikapa, mais les collègues de Kananga sont venus ici à Chikapa nous rejoindre. Donc on a aussi une discussion qui est plus large que le Kasaï. Ça couvre aussi Kasaï central. Et donc nous sommes ici depuis aujourd'hui à Chikapa pour 4 jours. Le Fonds de consolidation de la paix a beaucoup investi ces dernières années. C'était Kasaï central, Kasaï et Tanganyika.
Et quid de la présence des donateurs dans cette mission?
Alors bien sûr, ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix en sigle, donc c'est le PBF. Donc eux, ce sont des gens qui viennent des sièges, soit de New York, soit de leur capitale. Ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix. Le Fonds de consolidation de la paix a investi à peu près 80 millions de dollars ces dernières années en RDC, donc ce qui est un montant assez important pour qui est focalisé sur la consolidation de la paix. Ça a été concentré sur quelques provinces et récemment, ça a été notamment concentré dans le cadre de la transition de la MONUSCO. C'est pour ça que le PBF a beaucoup investi dans les 3 provinces d'où s'est récemment retirée la MONUSCO, puisque en 2021 la MONUSCO s'est retirée des Kasaï et en 2022 du Tanganyika.
Vous avez fait allusion au départ de la MONUSCO dans quelques provinces. Dans quel domaine elle était active pour les Kasaï?
Alors d'abord, peut-être pour dire quelques mots sur la transition de la MONUSCO. La transition de la MONUSCO, ce n'est pas équivalent au départ des Nations Unies. La MONUSCO quitte, mais les Nations Unies restent à travers ses agences, ses fonds, ses programmes. Il y a 22 agences des Nations Unies qui opèrent en RDC, et de très nombreuses agences opèrent dans les différentes provinces, notamment ici à Chikapa.
Quel a été l'impact du projet PBF dans le Kasaï?
Donc, parmi les domaines où la MONUSCO était très active, par exemple ici, il y a le domaine de la justice, il y avait le domaine de la protection des civils, le domaine de la cohésion sociale, il y avait le domaine du DDR, donc du désarmement, des mobilisations des combattants et leur réinsertion, etc. Il y avait tout un nombre de thématiques. Dans le cadre de la transition de la MONUSCO, donc il y a une montée en puissance des agences du système des Nations Unies pour qu'elles puissent appuyer les autorités nationales, provinciales et locales au niveau des territoires à continuer des efforts et à consolider tous les gains qui avaient été faits.
C'est donc ce qui explique la présence du secrétaire général au plan dans cette mission.
Alors bien sûr, pour ce qui a trait au fonds de consolidation de la paix, nous travaillons avec notre tutelle qui est le ministère du plan. La ministre d'État, ministre du plan est représentée dans notre délégation par le secrétaire général du ministère du plan national qui est avec nous. Il y a un comité de pilotage national du fonds de consolidation de la paix qui est présidé par la ministre d'État et moi-même. Donc ça c'est au niveau de la tutelle générale et ensuite bien sûr on travaille avec tous les ministères concernés, le ministère de la justice, le ministère de l'intérieur, le ministère des droits humains, etc. puisque les Nations Unies travaillent toujours en partenariat avec les autorités. Alors aujourd'hui, j'ai posé la question à nos collègues qui sont basés ici sur l'impact, parce que c'est important d'avoir des activités, c'est important d'avoir des résultats, c'est important de faire des formations, c'est important de construire des bâtiments publics, c'est important, mais tout ça, c'est des résultats qui n'ont pas forcément de l'impact. Ce qui compte à la fin, c'est l'impact.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs de Radio Okapi, comme toujours.